Bonjour et bienvenue à Afrique Caraïbe avec Fulgence Blas au micro en ce jeudi 5 décembre déjà. Ça va tellement vite, on est presque en fin d'année 2024, bientôt l'année 2025. Voilà, en cette première partie d'émission, bon, je vais parler d'un événement littéraire auquel j'ai assisté la fin de semaine passée, le samedi. Ça s'est passé à la Maison de l'Afrique, c'était la 4e édition des prix littéraires Baobab des écrivains afro-descendants et de la diaspora, bien sûr. Ça s'est passé le samedi passé à la Maison de l'Afrique et qu'est-ce que j'ai vu? Bon, c'était une très belle soirée. Il y avait eu du beau monde, la salle était pleine. Et après le Soudanais Abdelaziz Baraka Sakine en 2023, c'était lui le gagnant. Alors le Baobab du roman 2024 a été attribué cette année au Nigérien Wole Soyinka pour son roman Chronique du pays des gens les plus heureux du monde, publié aux éditions Seuil. Donc l'annonce du meilleur roman africain de l'année 2024 a été faite ce samedi passé. C'est du côté de la Maison de l'Afrique d'ailleurs, à Montréal, à Québec. Et ça s'est passé ici, à Montréal. Pour ceux qui ne savent pas, Montréal, c'est la plus grande métropole de la province de Québec, bien sûr. Donc l'annonce faite par le coordonnateur général de l'Académie des Baobabs est unanime. Le style de l'auteur, l'originalité du sujet, l'approche dramatique de l'œuvre et une excellente présentation caractérise cet ouvrage. Donc au cours de cette même soirée, le jury a décerné une mention spéciale à la Gabonaise Charline Effa pour son roman Les femmes de Bidi Bidi. Et bien qu'avant, le Baobab d'honneur a pu être attribué à l'écrivain Stanley Péan, écrivain, animateur de radio IC Musique à Montréal ici, pour l'ensemble de son œuvre. Quant au Baobab du premier roman, prix remis à un auteur qui a été attribué à la Congolaise belge Lisette Lombé pour son roman Eunice. Oui, c'est une auteure de la relève, ça il faut le dire. Donc il faut aussi retenir qu'au cours de cette cérémonie, il y a eu 4 tableaux d'honneur qui ont été décernés à différentes personnalités ayant contribué à la valorisation du livre africain et de sa promotion. Il s'agit de Franz Voltaire, fondateur du Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, Sidika, et de Karim Akouche, journaliste écrivain de Sabine Montpierre et Ali Matouba, toutes deux autrices, auteurs et militantes engagées pour la cause de la femme, l'environnement et la justice sociale. Et puis des stylos d'honneur ont aussi été remis à Mamadou Lot Bamba, Abdel Marcel, David Mézi et Amidou Sawadogo, agrémentés par les artistes comme David Mobio de la Côte d'Ivoire, Karine Omicro du Bénin, Diko Fils du Burkina Faso, Abdel Marcel du Togo et David Mézi d'Haïti, qui nous a fait un très bon slam d'ailleurs. Et donc cette fête montréalaise du livre africain a permis au public d'apprécier les auteurs africains de la diaspora et de gagner aussi des exemplaires des 41 livres en compétition. Alors, rendez-vous à l'année prochaine, à la même date, dans le courant du mois de novembre, à la Maison de l'Afrique. Ça va être la 5e édition. Voilà. Et puis, il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui sur le plan littéraire quand même, il faut le dire. Sincèrement, il y a le jeune auteur, Mfol. C'est le jeune auteur camerounais qui vient de sortir de ses romans, Si j'étais une femme. Et puis, là, je vais vous faire un peu le résumé de ce livre, c'est tout nouveau, hein. 2024. On fait une petite pause musicale avant de continuer.
Monsieur, Chevelles, mina na was nebele. Dali wa minga tuta no lo ital safani. Yeah, stand no samal safani. Kishep sugan salan. Na winga tau santan. Tandu lwetal safani.
Dali wa misyo muyes kote.
Dali.
Nsayo pandangi lala malunde.
On était en Afrique du Sud comme ça avec la grande oui c'est en Afrique du Sud avec les deux sœurs, les jumelles les Kwiba Queen ouais, c'est les deux sœurs qui se sont fait accompagner par le grand Big Zulu, c'est les Sud-Africains aussi, des grandes stars là-bas d'ailleurs. Doudouzi de Koumbé avec pour titre Allô Safani, très belle pièce d'ailleurs. Si vous voyez la vidéo, ça a coupé le souffle. Ok, mon invité est déjà, elle vient d'arriver. Voilà, je ne vais pas dire qu'il est déjà là, mais il vient d'arriver. Et il va nous parler de production de cacao. Il est originaire de la Côte d'Ivoire. C'est par hasard dans mes recherches sur le web que je suis tombé sur Cacao Ivoire Québec. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Des Ivoiriens à Montréal qui font la transformation de cacao. Je suis allé encore fouiller sur le site là-bas. Très bien fait, très beau site d'ailleurs, bravo.
Merci.
Ibrahim. Et puis bon, ben, j'ai appelé, mais je ne suis pas tombé directement sur le fondateur PDG. Je suis tombé sur une de ses collaboratrices, une de ses employées qui a eu l'audace de me communiquer son cellulaire privé. Je l'ai appelé, il a décroché, j'ai dit, c'est telle personne qui m'a donné ton numéro. Bonjour Ibrahim Diabaté.
Bonjour.
Merci.
Bonjour Fulgence.
Oui, ouais, merci d'être là. Ouais. Pour parler un peu de ce beau projet d'ailleurs qui est déjà en service depuis quelques années.
Exactement.
Comment est venue l'idée de faire de la transformation de cacao? Je sais que ton pays d'origine, le premier producteur de cacao au monde.
Exactement.
Ça vient de là. Est-ce que tu as été dans les négoces au pays avant d'arriver ici? Sans parler d'abord de ton parcours scolaire, universitaire. L'HEC, tout ça, voilà. Parce qu'on ne vient pas comme ça et puis on dit, je vais transformer du cacao.
Ouais, exactement.
Voilà.
Mais c'est une histoire qui remonte depuis ma belle enfance.
Oui.
J'ai été au village voir ma grand-mère, elle était cultivatrice.
Mm-hmm.
Et le déclic est venu de là depuis mon enfance.
Ah bon?
Oui.
Ça date de loin.
Ça date de loin. Ma mère et ma grand-mère faisaient la culture de coton. Malheureusement, comme vous savez, nos cultivatrices africaines ne tirent pas le meilleur profit de leur dur labeur. Donc, elle m'a dit comme ça, Ibrahim, sais-tu qu'après cette récolte, je m'en sors encore avec des dettes.
Oui.
Et donc, j'ai jamais oublié cette. J'allais dire cette.
Parce que c'est pas fait de manière industrialisée. C'est pas fait pour faire de l'argent, c'est pour juste se nourrir, pour parvenir à ses besoins.
Exactement. Voilà. Et donc, j'ai eu vraiment ce déclic. Et puis, c'est sûr que le coton est exporté pour être transformé en Occident et puis revient encore être vendu
en produit fini
à la même population. Ben donc là, moi, j'ai eu l'opportunité d'immigrer au Canada. Et puis, j'ai travaillé dans une manufacture comme opérateur. Et là, on travaillait le chocolat. Là encore, le déclic, c'est comme le message de ma grand-mère qui résonnait toujours dans mes oreilles. C'est comme un message qui est resté.
Donc, tout ce que tu allais apprendre au HEC, c'est l'école de hautes études commerciales, tout ton parcours, disons, universitaire, t'a permis quand même de... C'est pas le fait que tu as travaillé dans une fabrique de production de cacao, mais ton parcours scolaire aussi, universitaire, t'a permis de faire ce jumelage.
Absolument, absolument, c'est sûr.
Bon, parce que c'est une gestion. Hein?
Oui, c'est ça, c'est une grande gestion. C'est le marketing,
voilà,
c'est la finance, c'est la projection, c'est les études de faisabilité.
C'est ça.
C'est le développement aussi de projets, donc c'est tout un ensemble. J'ai une maîtrise en sciences économiques, sciences de gestion, qui est la reine des sciences sociales, comme on le dit. Donc, je veux dire, c'est un cumul de la comptabilité, gestion financière, tout cet ensemble de connaissances.
C'est tout un tour, oui.
Qui me permet d'être un pluridisciplinaire et puis de pouvoir m'adapter aussi à différentes situations.
Ouais. Maintenant, on revient à ton passage dans cette usine de fabrication de chocolat. Donc, avec le bagage universitaire, oui, bien sûr, il fallait avoir ce bagage-là. Et puis, ton passage là dans cette fabrique de marché, tu t'as dit. C'est le moment.
C'est le moment, effectivement. Il fallait travailler. Effectivement, vous avez mentionné, en Côte d'Ivoire, j'ai fait un peu de négoce. Ici aussi, j'ai entamé par le négoce. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est que la population ne connaissait pas vraiment l'histoire du cacao. On ne savait même pas que le chocolat consommé au Canada, plus de 50% était d'origine de Côte d'Ivoire.
Ils ne savent pas.
Ce n'est pas marqué sur les emballages.
Il y a des gens qui ne savent même pas que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde.
Exactement. Donc, c'est là que je dis, mais on va quitter l'aspect de vente de matières premières pour aller à la transformation. Mais là, l'idée, c'était de créer un pont. Un pont entre mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire
et ton pays d'accueil.
Et le Québec.
Parce que
pour moi, il faut être des citoyens, je dis, actifs et des citoyens qui apportent un impact positif.
Oui.
Et donc, je voulais régler deux problématiques. C'était de pouvoir avoir un impact sur les planteurs, les cultivateurs en Côte d'Ivoire, de permettre d'avoir une meilleure rémunération, une formation, les former, les guider sur la transformation. Mais en même temps aussi, je voulais que les Québécois, dans leur ensemble, puissent avoir du bon chocolat. Et c'est de là qu'est parti le projet réellement. Quand on a commencé la première transformation, on a eu à faire goûter le chocolat. Et bien les gens ont dit, bon Dieu, j'ai jamais goûté à un chocolat authentique. Et donc là, on a foncé tout droit, nous sommes à notre... depuis 2021 que nous avons lancé l'aventure de la transformation.
Bientôt 4 ans.
Et nous sommes fiers de notre parcours.
Wow, bravo. Ouais. Et comment tu as pu réunir cette équipe d'autres Africains, d'autres Ivoiriens autour de toi? Tu les connaissais auparavant ou bien ça, quelle idée t'est venue que tu t'es mis à la recherche de ces gens selon leurs compétences, bien tu peux te permettre de faire grandir le nouveau-né?
Exactement. Mais moi, je parle d'un fait, c'est dit que oui, c'est vrai. Je voulais, en créant le pont, faire appel à ces Africains qui ont immigré ici, ces talents-là, de pouvoir me rejoindre dans ce projet-là et pour pouvoir montrer nos savoir-faire. Donc, c'est ainsi que j'ai approché tous les investisseurs possibles dans la communauté, sans distinction aucune. Pour leur présenter le projet, faire des simulations. Il y a des personnes qui ont embarqué tout de suite.
Il y a d'autres qui ont hésité en disant.
Il y a toujours des personnes qui hésitent.
Ibrahim m'a pas convaincu. Voilà, ils se sont dit, il m'a pas convaincu. Voilà, ça devait pas aller comme ça. Mais de toute façon, ça t'a pas découragé. Ceux qui embarquaient avec toi, qui étaient prêts à aller avec toi, t'as dit, on y va, les gars.
Absolument. Oui. Et ces personnes, en tout cas, j'ai eu de très bons soutiens. Mm-hmm. Je me souviens que mon oncle m'a appelé depuis les États-Unis. Il m'a dit, tiens, tu as un projet. Je te fais un don de 5 000 $ US.
C'est pas vrai.
Oui, absolument. Merci à lui. J'ai été profondément touché.
Même si c'est un dollar, qu'il t'appelle pour te faire un petit. C'est le geste qui compte. Ouais, c'est pas le montant.
J'ai une autre dame qui m'a dit, écoute, ma mère était cultivatrice, je vais te soutenir avec 2 000 $.
Donc, c'est touchant.
Oui, j'ai quelques personnes qui ont embarqué tout de suite, qui m'ont encouragé. Mais honnêtement, il faut reconnaître que c'est... C'est des centaines de milliers d'investissements.
Oui.
C'est un travail. En tout cas, il faut vraiment se donner. Il faut travailler avec beaucoup de sérieux, dévouement. Parce que le début, il faut faire ses preuves.
Ah oui.
Vous imaginez.
Pour que le milieu puisse t'accepter aussi, quelque part.
Exactement.
Voilà, tu dois te dépasser, oui.
Exactement. Mmh. Vous savez, le chocolat, c'est un milieu très compétitif.
Oui.
Vous pouvez avoir un produit de qualité, mais il faut pouvoir vendre dans une bonne niche personnes qui apprécient ce produit-là.
Est-ce que ça a été facile pour toi de faire la prospection pour savoir à qui tu vas vendre ou bien avec qui tu vas collaborer ici, à l'intérieur d'abord du Québec et ensuite à l'extérieur?
Honnêtement, ça n'a pas été une chose aisée. Parce que là, quand vous faites votre étude de faisabilité, vous fiez à des prix. Et des prix vendeurs qui ne sont pas souvent réels.
Heureusement, tu connaissais déjà le marché, le milieu de négoce quand même.
Exactement.
Ça t'a beaucoup aidé.
Exactement. Il faut d'abord, l'un des grands enjeux, c'est de trouver la matière première de qualité.
C'est ça, parce que tu n'étais pas totalement aveugle dans le milieu. Voilà. Tu savais où à peu près mettre tes pas. Quoi.
Exactement. Donc, il faut être compétitif. Et puis, ben, au début, c'était pas facile, mais aujourd'hui quand même... On se plaint pas.
Tout début est difficile, peu importe ce qu'on entreprend.
On se plaint pas.
On fait une pause musicale et puis on revient avec mon invité Ibrahim Diabaté, PDG fondateur de Cacao Ivoire Québec, c'est bien ça. La transformation, il n'est pas là pour vendre du cacao seulement dans l'usine, c'est faire la transformation avant de vendre.
Exactement.
Voilà.
Fali Poupa, Dicap la merveille.
Oui, okay, digi. Jacobia, mon Jacobé.
Et me sortit à Buena, soit sorti tanga, tando. Nakuma, kawaja, mon tambora.
Yako di Kunga, Wapi Manaja.
Ah, oh mama, a juju, juju, juju.
C'était Petit Fally et le titre de la pièce qu'on vient d'écouter, c'est Diki Diki. Petit Fally, c'est pas le petit frère ou bien le fils de Fally Poupa, mais c'est, disons, quelqu'un qui apprécie, c'est un de ses fans qui fait aussi de la musique. Il a laissé tomber son propre nom à lui et se fait appeler Petit Fally. C'est sa marque de commerce. Fally, ils se connaissent les deux. Fally va à ses spectacles pour l'encourager aussi, tout ça. J'ai vu une de ses vidéos la dernière fois où, quand il était en train de chanter les chansons de Fally, Fally était tout en émotion, quoi. C'est une copie conforme de Fally quand il ouvre sa bouche. Alors, Ibrahim Diabaté, PDG, c'est bien ça, fondateur de Cacao Ivoire Québec, la transformation. Alors, pour ceux qui ne savent pas, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir à l'usine là-bas pour ça, pour voir au moins pour une première fois de la vie un grain de cacao, bien une cabosse de cacao? Il y a des gens qui n'ont jamais vu ça.
Ouais.
Ils ne connaissent que le chocolat fini.
C'est ça. Oui, on organise des ateliers.
Oui.
Sur demande. On peut organiser et puis faire des productions.
Individuelles ou bien pas? Il y a des gens qui viennent en groupe quand même.
Individuel, en groupe. Oui. Ça peut être des jeunes étudiants. Ou bien des familles qui veulent comprendre.
Qui ont envie de découvrir quelque
découvrir,
chose.
Découvrir, oui. On peut allouer du temps pour ça.
D'accord. Alors, on va parler un peu. Moi, je suis allé sur le site. Là, tout ce que j'ai vu là-bas, j'aime. Je ne savais pas dire que le jour que je viendrai à ton usine, je vais tout manger. Non, il ne faut pas avoir peur de moi.
Ouais.
Alors, quelle est la mission principale? Quelles sont les valeurs de cette entreprise, de cette usine de transformation de cacao ivoire au Québec? Quelles sont les valeurs?
Déjà, les valeurs,
oui.
On se positionne comme une entreprise responsable, comme je le disais.
Oui.
Nous plaçons les planteurs au cœur de nos actions.
Oui.
Je viens d'un voyage en Côte d'Ivoire, j'ai eu le temps de rencontrer des coopératives. Je suis en contact avec les cultivateurs, je suis au parfum de leurs difficultés.
Oui.
Et ici, avec les acheteurs, on essaie de faire comprendre aux différentes personnes comment est-ce que c'est difficile pour ces planteurs-là de produire. Donc, c'est vraiment l'humain au cœur de nos actions. C'est vrai, on fait de la transformation, mais on veut vraiment impacter positivement ces cultivateurs-là. Donc, la valeur, c'est vraiment des valeurs humaines.
Mmh.
Et puis, en termes de développement durable, vous savez que le cacao avec les coques de cacao qu'on produit servent d'engrais naturels.
Ah bon?
Oui, exactement. Okay. Donc, rien ne se perd là, dans ce qu'on fait dans le cacao.
Sous forme de recyclage,
c'est
quoi,
ça,
quelque
c'est
part.
Ça.
Oui, non, je comprends. Ouais. Wow. Alors, depuis que tu t'es lancé dans cette affaire de transformation du cacao, je pense bien que ton rapport avec les paysans, les planteurs sur place a beaucoup changé aussi.
Oui, absolument, absolument. Oui.
Tu les vois tout de suite comme des partenaires.
Exactement.
Des associés, oui.
Il y a un impact qu'on a, il y a une action qu'on a posée qui m'a marqué jusque-là. C'est une coopérative qui est située à l'est de la Côte d'Ivoire. C'était des femmes trieuses qui avaient trié des fèves de cacao.
Oui.
Et qu'on a acheté avec ces dames-là. C'était un impact positif.
Oui, parce que le cacao pousse très bien aussi dans l'est de la Côte d'Ivoire, du côté d'Abengourou.
Exactement, frontière avec le Ghana.
Avec le Ghana, oui. Ça pousse très bien là-bas aussi. Ouais. Bon, c'est vraiment ce rapport-là. Alors, quand les gens, les compagnies avec tes partenaires d'affaires ici, ces compagnies, tes clients, ceux qui viennent acheter ton produit, là, comment quels sont les rapports?
Et il faut dire qu'on a différents groupes d'acheteurs.
Est-ce que les acheteurs sont seulement à l'intérieur du Québec ou bien ça vient aussi de l'autre part, de tous les coins du Canada ou bien de l'Amérique
du Nord? Tous les coins du Canada, mais principalement le Québec que nous ciblons. Dans un premier temps, ça fait peut-être une stratégie commerciale. On veut vraiment bien avoir une bonne assise au Québec et se déployer au fur et à mesure.
Dans c'est le QG ici. Exactement. On ne sait jamais, peut-être qu'il y aura une autre usine quelque part.
Ben, c'est ce que nous souhaitons. Évidemment. Ouais. Mais on veut vraiment bien s'implanter au Québec. Comme le nom de la compagnie l'indique.
Transformation Cacao-Ivoire-Québec.
On veut créer vraiment le pont avec le Québec.
Oui.
Et puis, en passant, merci au ministère de l'Agriculture du Québec qui nous a soutenus dans ce projet.
Ils vous ont tendu les bras.
C'est ça.
Ils ont accepté votre...
Notre projet, ils ont cru en nous. Et ça, c'est quelque chose à souligner.
Oui. On l'a dit merci.
Oui, absolument.
Oh, ouais. Qui encore? Vas-y, tu donnes la liste.
C'est le premier partenaire, c'est le MAPAC, donc, qui nous continue de nous soutenir dans notre développement.
Oui, merci à eux aussi. Wow, intéressant.
J'ai cité mon oncle et puis toutes ces personnes qui ont cru en nous, qui continuent de croire en nous, nos clients.
Peu importe le montant qu'ils ont donné.
Exactement, qui continuent de croire en nous. Ma mère qui est aussi une coach.
Comment elle a réagi quand tu lui as mis ton... Tu es allé lui parler de ton projet. C'est pas le petit Ibrahim, quand il est sorti, même quand il a pris la décision d'aller au Canada, après sa formation, je sais pas, l'école, cette formation technique-là, le... Pigé Abidjan.
Ouais, Pigé.
Ça existe encore, ça?
Ouais.
C'est une vieille école de
gestion.
De gestion et autres, là. Merci.
Donc, ma mère, je me souviens, j'étais tellement stressé avec le projet au début. Elle me disait,
tu vas aller
faire
avec
le bon choix.
Oh là.
C'était vraiment difficile.
Des moments où on n'aime pas voir les enfants souffrir.
Et puis à ma conjointe aussi, qui me soutient quand même fortement.
On revient tout de suite. Ouais. Là. Restez à l'écoute après la petite pause publicitaire. J'ai encore quelques minutes avec mon invité pour parler un peu de sa transformation de cacao. Ouais. Allez, à tout de suite. Merci.
Vous écoutez Afrique Caraïbes avec Fulgence Blas.
Oui, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je suis encore avec mon invité Ibrahim Diabaté, qui est le fondateur et le PDG de Transformation Cacao Ivoire au Québec. C'est bien ça? TCIQ.
Ouais,
c'est l'abréviation. L'abréviation. Alors, est-ce que Ibrahim rêve cacao tout le temps?
Oui, c'est sûr que j'ai de très grandes ambitions.
Oui.
Mon objectif, c'est d'agrandir cette compagnie. C'est de surtout valoriser ces planteurs-là. C'est vraiment finaliser mon projet de création de ponts. J'ai pour ambition d'aller vraiment vers une transformation qui va permettre de servir tout le Québec, le Canada, États-Unis, pourquoi pas le monde, et puis laisser une entreprise à des générations à venir. Donc apporter quand même ce pont-là qui a été créé, il faut que ce pont-là soit maintenu. Et puis il y a une continuité avec d'autres personnes qui vont prendre la relève.
Bien sûr.
Et c'est ça notre objectif.
Ce pont que j'appellerais aussi la passerelle, quoi.
C'est ça.
Ce lien, cette volonté d'avoir mis...
J'invite les autres à venir participer, à grandir la chose commune.
On va parler un peu du beurre de cacao.
Ouais.
Parce que moi, j'adore ça aussi. Il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a beurre de cacao. Il est riche en antioxydants. Parle-nous un peu de ça, parce que ça se vend dans ton...
Absolument.
Chez toi là-bas, beurre de cacao.
C'est l'un des produits, l'un des meilleurs vendeurs hein, quand même, parce que le beurre, le cacao intervient un peu partout.
Oui.
Dans l'industrie cosmétique.
Wow.
Au niveau de la chocolaterie. Même au niveau des fromageries, vous savez, le beurre...
Des fromageries.
Oui. Le beurre a cette caractéristique qu'aucun produit n'a. Actuellement, les chocolatiers n'arrivent pas à le remplacer.
Surtout le beurre de cacao.
Oui, parce que le beurre de cacao peut maintenir sa forme solide, peut jusqu'à 60 degrés, vous voyez. peut résister à la chaleur.
Je savais. Oui,
donc,
oui,
vous voyez, le beurre du cacao, c'est ce qui donne l'aspect fondant au chocolat. C'est ce qui permet au chocolat d'avoir cette structure épaisse, bien solide.
Solide, oui.
Exactement. Mm-hmm. Donc, c'est une matière très, très importante. Non seulement pour le corps, mais aussi nutritif, très nutritif.
Oui.
Et nous pressons le beurre de cacao ici à Montréal, dans notre unité de transformation.
Oui. Et ce que je sais encore, j'ai appris là sur votre site aussi, que c'est une source de vitamines et de minéraux.
Absolument. Mais nous, on se base sur ces données qui existantes.
Oui, oui.
Mais c'est sûr,
oui,
qu'on finira pas de parler des vertus du beurre de cacao tellement... les vertus sont indénombrables, en fait. Hein.
C'est même utilisé en pâtisserie.
Exactement. C'est, comme je dis, actuellement, il y a une flambée des prix de beurre de cacao sur le marché, avec suivi d'une rareté pas possible. Mm-hmm. La dernière fois, j'ai eu un chocolatier qui en a, je pense que c'est un fromage, quelqu'un de...
Qui fait des fromages.
Qui fait des fromages, mm-hmm, qui a de la difficulté à en trouver. Donc
il est venu te voir.
Ouais, ouais, ouais.
Est-ce que tu as pu le servir?
Ben, je suis ouvert. C'est sûr que là, là où il y a les grandes questions, c'est au niveau des prix, etc.
Oui.
Mais actuellement, comme je dis, il y a une flambée de prix. Les matières premières coûtent cher. Donc, on est quand même obligé de s'aligner tout en étant très compétitif. Je peux dire, nous sommes très, très compétitifs sur le marché.
Wow. Parce que moi, je ne connais pas une autre compagnie ici qui fait la transformation de cacao, surtout de cacao ivoire.
Ouais.
Surtout de cacao ivoire. Ouais. Non, j'en connais pas. C'est vraiment ta compagnie la première que j'ai pu découvrir. Et quand j'ai su, surtout que même si tu n'étais pas originaire de la Côte d'Ivoire, j'allais t'inviter. Je me suis dit, ah tiens, voilà ce que mon frère africain fait de l'autre côté là-bas.
Ouais,
il faut qu'il vienne parler de ça, quoi. Surtout, et qu'il est de mon pays d'origine aussi. Alors là, si je passe à côté, je m'en voudrais moi-même. Mmh. Alors, quel est le conseil que tu as donné à ceux qui nous écoutent? Qui aimerait supporter ce grand projet que tu as, cette passerelle, ce pont que tu...
Mais à ces personnes-là, je veux leur dire de quitter dans l'hésitation.
Oui.
Et de croire. De croire. Et ce que l'un des points positifs d'un investisseur ou d'un entrepreneur, c'est qu'il n'a pas peur de perdre. Parce qu'on s'est dit, tout ce qu'on perd, on récupère quelque part.
On récupère quelque part. Ouais.
Et donc, en ayant ces motivations...
Il ne faut pas aller avec une certaine anxiété, une peur au ventre. Oui, est-ce que ça va marcher? Non. On met ça de côté.
Il faut se jeter. Il faut se jeter, il faut croire. Il faut, comme je le disais à certaines personnes, il faut aider parce que à cause des valeurs, des objectifs du projet. Il faut y croire et puis il faut laisser, il faut avoir un impact positif.
Oui.
Et donc, nous, en tant qu'immigrés au Québec, je dirais, il faut quand même qu'on puisse laisser un impact positif.
Oui.
Il faut soutenir nos planteurs, mais en même temps, il faut permettre de valoriser le chocolat de qualité aussi. Parce que c'est vraiment santé, ça permet de freiner la vente de faux chocolat, par exemple. Et plus on consomme du chocolat, plus on enrichit nos planteurs. C'est important. Il y a un lien, en fait.
Il y a une passerelle qui a déjà été tracée. Moi, je me dis, de toutes les façons, comme les prix n'ont jamais été fixés en Afrique, ça a toujours... Moi, quand j'ai su que les prix étaient fixés au Bretton Woods, à Londres, mais j'en revenais pas. J'ai dit, mais comment se fait-il que le produit est fait ici en Afrique, tout est produit en Afrique, et les prix sont fixés à Londres? Parce que c'est eux qui consomment le chocolat, au fait.
C'est ça,
c'est le fait.
Ça fait partie de l'un de nos combats.
Je pense,
j'ai été au Conseil Café et Cacao de Côte d'Ivoire à plusieurs reprises.
Oui.
C'est sûr que oui, effectivement, les consommateurs qui ont le pouvoir de décider sur les prix, les gros acheteurs.
Parce que c'est eux qui consomment beaucoup plus que les Africains eux-mêmes.
Exactement.
En gros.
Exactement. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même une certaine instabilité des prix.
Oui. Et mais il y a une évolution quelque part.
Oui, en ce moment, il y a une évolution due au fait que la production est en baisse.
Oui.
Donc, c'est, c'est, ah. Oui, c'est une question de la loi de l'offre et de la demande.
Oui, d'accord.
Donc, plus il y a de demande qu'il y a moins d'offres, les prix vont forcément flamber. Mais dans l'effet contraire, ça risque d'avoir un impact négatif sur les planteurs. Si l'offre est élevée, que la demande est faible. Donc, il faut préparer cela quand même. Je pense qu'avec les transformations, le pont qu'on est en train de créer justement.
Oui.
Parce que là, on va assurer un meilleur revenu à ces planteurs-là.
On dit merci. Je dis merci à toi. Et à toute l'équipe derrière, parce que tu ne travailles pas seul.
Absolument, 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 absolument.
Je viendrai vous voir un de ces jours-là. Il faut que je passe là-bas à l'usine pour découvrir.
Avec plaisir.
Avant que tu ne reviennes ici nous parler des nouveautés. C'est-à-dire que quand je vais aller voir, et puis ce que je n'ai pas vu quand je suis passé, tu viendras nous voir. Merci Ibrahim Diabaté.
C'est un plaisir.
PDG, fondateur de la transformation de cacao ivoire au Québec. CIQ, c'est bien ça.
Exactement.
Alors, au plaisir de te réentendre et avec l'agrandissement de la transformation de l'usine, une deuxième usine quelque part dans une autre grande ville de Québec ou bien à l'extérieur de Québec,
absolument,
pourquoi pas.
Absolument.
Mais le QG restera toujours ici.
Absolument.
Ce qui est sûr. Merci.
Ouais.
Bon vent avec les planteurs et tes clients ici et au plaisir de te réentendre.
Merci beaucoup.
Merci.
Fiorella. Mamma mia, mission accomplie. Mamma mia, bemana bovoto. Mamma mia, solisa canza mi vie. Mamma mia, limbisa banano. Lodo pesa chite, e dopo cacchio salate. Mamma mia, congele la canna te. Mamma mia.
Mamma mia, okay, tu kebi solano. Nanya pesa sama na mboka e. Oh, mamma mia, j'aurais encore voulu t'entendre me dire moi na 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 ici.
Coco Addington, Coco Victoire.
Mamma mia,
Olomide et Eric Ouem. C'est une question qui ne devait pas être posée de toutes les façons. Je me suis dit, je vais parler de ça quand même parce que c'est quelque chose qui vient me chercher. C'est quelque chose qui vient me chercher. De quoi il s'agit? Il s'agit de la Guyane. Ce portrait de Mireille Ossak Ouabadami, la première femme Kalina à obtenir un doctorat. La Guyane, oui, il n'y a pas que des Blancs là-bas aussi, il y a des Noirs là-bas et des Autochtones là-bas. Docteur en littérature et histoire, Mireille Ossak Ouabadami, auteure, enseignante et chercheuse, bien sûr, chercheuse, est une figure majeure de la préservation et de la valorisation des cultures amérindiennes en Guyane. Première femme Kalina à obtenir un doctorat, elle a consacré sa carrière à l'étude et à la valorisation des cultures et des langues autochtones, des traditions artisanales de sa communauté. À travers ses travaux académiques, ses publications et son engagement au sein du Grand Conseil coutumier, elle milite aussi pour une meilleure reconnaissance des savoirs autochtones dans le paysage culturel et académique contemporain. Membre de la nation Kalina Tilewuwu, Mireille Ossak d'ailleurs, qui est issue de la famille Johannes Kayamari, est l'une lignée respectée parmi les Kalina. C'est le peuple Kalina d'ailleurs également connu sous le nom des Caribes ou des Galibis. Galibis, c'est un groupe autochtone vivant principalement en Guyane, au Suriname et puis au Venezuela. Donc voilà, par son travail, elle agit comme un relais entre les traditions de cette communauté et le monde contemporain. Elle contribue aussi à la pérennité de cet héritage tout en favorisant sa compréhension à une échelle plus large. Elle est pionnière sur la recherche sur la perlurie amérindienne, Mireille Ossak Ouabadami. Ouabadami. Waouh! C'est tout nouveau. Elle a obtenu son doctorat en 2022 à l'Université de Guyane, dans le domaine des lettres et sciences humaines, avec une spécialisation en langue et culture régionale. Donc sa thèse était déjà dédiée à la perlurie amérindienne et puis une étude des techniques artisanales et des significations culturelles et symboliques qui se cachent derrière chaque motif et chaque perle. Voilà, on dit bravo. Une auteure au service de la mémoire et de l'identité. Elle s'illustre également en tant qu'auteure et prolifique, mettant sa plume au service de la transmission des savoirs, amérindiens. Et parmi ses œuvres, son livre Art de Guyane propose un panorama des expressions artistiques locales, en accordant d'ailleurs une attention particulière aux pratiques autochtones. Avec le livre Résilience généalogique, prénom Kalina, elle explore la portée culturelle des prénoms traditionnels de sa communauté, tandis que le livre Narration amérindienne poétique sur Damas mêle récit et poésie s'inspirant de la richesse de la tradition orale. Voilà, on va faire une petite pause musicale et puis on revient pour la suite de l'émission.
Are you serious? You are leaving me?
What else?
You are joking, right? Stop playing with me. You see, for my life, nobody did do me right. And I won't take it lightly. What the fuck you say? Yeah, I know I fucked your bestie mistakenly. Now I know you are vexing. All this money I'm flexing. It's only you I want to spend her with me. Baby girl, I swear I just want you to do what's best for the team, my baby. Stop the cop, let me tell you straight up. Maybe we're in this to it.
Money can't change me. No other woman go fi take me. And my neighbor me sober, nothing go fi shake me. And yeah, that you swan, nobody for wake me. Please, mommy di me do. Me share money, I go ballin', yeah, mommy be a mini suck. A rama forgetting, I mean, the baby cup. I saw bro Jeff and saw the woman, it's suck. Cause, me boo me near. What am I say? Usu mi mua, when him say, I'm a tear. Ni need a form, when him a dear. Me home for me, I go buy him, I dear, home a tear. Me cause all tin, I be boom, when him a warrior. When mama rare, who you not, I need me ni chair.
What else?
Me say me come and offer who I say man, make us say me a chama dear, what else? My man, family battery, mess back in Wakano. So, woman, me, come, cry me, de be fano. Gena, we be tono, hunting, I'm a jano. Yeah, me, sabe, cano, me, jam, and the crack with tear chain. From here to Bombay.
Fly you, first class, stop playing.
Make we link up, smoke we on the highway.
Anywhere you day, I'm
what you for, make a seat up. And yes, I be some way.
When you be bright in my day.
I know, so you did try, go solo, but I'm sorry.
Maybe we're in this to later.
On vient de finir comme ça. On vient d'écouter le grand Sarkozy, grand slammer, grand rappeur, voilà, gagné en complicité avec son ami Rogue, qui est d'origine nigériane, grand producteur de musique. Je l'aime bien, je savais même pas qu'il chantait Rogue. Moi, je l'ai découvert comme producteur. Il chante aussi, très belle voix d'ailleurs. Il a toujours un verre noir sur un de ses, je ne sais pas quel genre de maladie qu'il a depuis son enfance. On dirait un pirate, quoi, sous forme de... Voilà, c'est comme ça. Les gens dont... Moi, je ne l'ai jamais vu sans son truc, là. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé à son enfance avec son œil. Voilà. Sarkozy avec Ruger. Till we die. Voilà. Jusqu'à ce qu'on meure. C'est tout. Alors, je vais parler encore de littérature. Et je suis là. C'est aujourd'hui, c'est comme ça. Après avoir parlé de Mireille, Oksamo Wadabami, de... La première docteur, voilà, première femme docteur Kalina à avoir obtenu un doctorat. Et puis là, je vais parler un peu du festival Bilibili BD qui revient en décembre. Ça a déjà commencé la deuxième édition, la neuvième édition à Brazzaville. Brazzaville, c'est la capitale de la République du Congo, l'autre Congo qui est en face du fleuve Congo d'ailleurs. Ça a commencé le 2 décembre et ça va finir le 8. Donc Brazzaville accueille depuis le 2 décembre la 9e édition du festival Bilibili BD. C'est ça, parce qu'on l'appelle Bilibili BD. Bilili BD, c'est pas Bilibili, c'est Bilili BD. Voilà, à l'Institut français du Congo, Congo, ouais, créé en 2016 par Joël Epe Mandenge. Voilà, également connu sous le nom d'Elions. Cet événement s'est imposé comme une plateforme majeure pour la bande dessinée et puis les arts graphiques aussi en Afrique, ça il faut le dire. 9e édition, ça fait son petit bout de chemin. Cette année, le festival s'articule autour du thème Neketsu. C'est une exploration du voyage initiatique du héros inspiré des mangas shonen. Voilà, pour ceux qui connaissent les mangas. Donc, depuis sa création, le festival Bilili BD, c'est Bilili BD, voilà, poursuit trois objectifs d'ailleurs essentiels. C'est valoriser la bande dessinée africaine, encourager les échanges et interculturels et enfin aussi former les talents de demain. Donc, pour cette édition, le festival Bilili BD adopte un format hybride combinant des activités en présentiel, physique, bien sûr, il faut être sur place et bien en ligne. Alors, ça, c'est venu pour rester. Depuis la pandémie, c'est fini. Les histoires, les choses hybrides, ça ne peut plus finir. C'est venu pour rester, quoi. Donc, cette double approche, d'ailleurs, permet aussi au public international de participer, bien sûr. Il ne faut pas être forcément là-bas, à Brazzaville, pour dire que j'ai assisté au festival Bilili BD. Voilà, je peux être à Montréal, je peux être à New York, je peux être à Paris et assister au festival Bilili BD. Bravo aux organisateurs. Voilà. Donc, cette double approche permet aussi au public international de participer tout en conservant la dimension humaine et conviviale des échanges sur place, quoi. Donc, l'accès aux différentes activités, qu'il s'agisse de masterclass, d'ateliers, de conférences ou bien de rencontres avec des professionnels sera gratuit. Voilà. C'est l'accès qui est gratuit. Toutefois, d'ailleurs, une inscription préalable est nécessaire pour participer, quoi, si on a envie de suivre ça en ligne. Voilà, Bilili BD, le festival Bilili BD. Voilà. Derrière le succès de ce festival, d'ailleurs, se trouve Joël Epe, comme je l'ai dit, Mandingue, connu sous le nom de. Il est né à. Il vient de là-bas, c'est un originaire de là-bas. Cette autrice et dessinatrice camerounaise est diplômée en lettres modernes et de l'université. Je vais vous dire quelque chose, je me suis dit. Ça vient pas de commencer, ça fait 9 ans quand même, ça dit que c'est la 9e édition. Voilà, j'ai dit bravo à ces personnes qui sont derrière. Ouais, bravo. Joël Epe Mandingue est notamment l'auteur de la bande dessinée La vie d'Ébène Douta qui aborde des thématiques telles que l'identité et l'intégration. Elle milite également aussi pour une meilleure reconnaissance des artistes africains dans l'univers de la bande dessinée. Elle est diplômée en lettres modernes de l'université de Bouéa et en art graphique de l'école supérieure des arts Saint-Luc de Liège. Voilà. Congo belge. Voilà, ça c'est vrai. Est-ce que j'ai encore au moins 2 minutes là? Oui. De parole? Après on pourra passer la pièce musicale? Ok, d'accord. Allez, on va en musique. Merci à toi. Merci à mon invité. Samuel, merci à toi. Merci à mon invité. Ibrahim Diabaté, président fondateur et PDG fondateur de la transformation de Cacao Ivoire Québec. Et merci à Catherine Bourderon, la recherchiste de l'émission. J'ai dit merci à nos fidèles auditeurs et auditrices de nous suivre depuis le début de l'émission. Et sur ce, on termine en beauté avec qui? Avec Kelly Kumalo et la complicité de Modeling Goko. Voilà. Ngaye. Merci. Ciao. Yeah.
pas spécial,